Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Cap-Vert, le premier ministre sortant Ulysses Correa et Silva revendique la victoire de sa formation de centre-droit, le MPD, crédité d'une large avance sur le parti historique de gauche, le PAICV, de Janira Ofer Almada, à l'issue des législatives de dimanche. Selon un dépouillement portant sur près de 98,2% des bureaux de vote, le MPD au pouvoir depuis 2016 a obtenu 36 des 72 sièges de l'Assemblée nationale et le PAICV 29. Le MPD peut espérer décrocher au moins la majorité absolue de 37 députés quand les résultats de trois derniers sièges de la diaspora encore à dépouiller seront connus. Au Niger, des autorités locales ont annoncé hier qu'au moins 19 personnes ont été tuées samedi soir lors d'une attaque contre le village de Gaïgourou, dans la région de Tillabéri. Notre correspondant Abdelrazak Idrissa nous donnera les détails. Un groupe armé tchadien, l'UFR, composé de membres appartenant à l'ethnie du président Idriss Déby Itno, a apporté dimanche son soutien verbal aux rebelles du FACT qui ont attaqué le nord du pays le jour de l'élection présidentielle il y a une semaine. L'armée tchadienne a pour sa part affirmé avoir détruit samedi une colonne de rebelles du FACT à près de 200 km de Mao, à plus de 300 km au nord de N'Djamena, dans la région du Kanem. Selon l'armée tchadienne, il y a eu 150 prisonniers dans les combats qui ont eu lieu samedi. Des combats ont repris dimanche en fin d'après-midi. Le président Idriss Déby Itno a dirigé lui-même les opérations selon des sources militaires. De son côté, le FACT a affirmé dimanche dans un communiqué avoir procédé à la libération de la région du Kanem. Dimanche, la capitale N'Djamena était calme. Les chars et nombreux militaires positionnés la veille à l'entrée nord de la ville n'y étaient plus. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a limogé dimanche son ministre du Travail, Ken Kandodo, qui avait utilisé des fonds destinés à lutter contre la pandémie de coronavirus pour un voyage gouvernemental en Afrique du Sud. Il a également annoncé de nombreuses arrestations de fonctionnaires impliqué dans le détournement de l'équivalent de 6,5 millions d'euros de fonds COVID. La moitié des adultes américains ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le COVID-19, selon les données actualisées dimanche par les CDC, principale agence fédérale de santé publique du pays. La pandémie a fait plus de 3 millions de morts dans le monde, dont 567 000 210 aux États-Unis, suivi par le Brésil, le Mexique, l'Inde et le Royaume-Uni, selon un bilan de l'AFP dimanche. Ultime intervention aujourd'hui de l'accusation et de la défense au procès du policier blanc Derek Chauvin, accusé d'avoir tué le 25 mai à Minneapolis l'Africain-Américain George Floyd, avant le début des délibérations du jury, dans un climat de forte tension, après qu'une policière blanche a tué la semaine dernière un autre Africain-Américain, Dante Wright, dans la banlieue de Minneapolis. Dans la ville, les commerces se sont calfeutrés derrière des plaques de bois et des soldats de la garde nationale patrouillent dans les rues. Les États-Unis ont averti dimanche qu'il y aurait des conséquences pour Moscou si Alexei Navalny mourait au moment où ses partisans en Russie préparent une grande manifestation pour sauver la vie de l'opposant malade et en grève de la faim dans le pénitencier où il est détenu. De son côté, l'Union européenne, profondément inquiète, prévoit une réunion aujourd'hui de ses ministres des Affaires étrangères. L'hélicoptère Ingenuity tente aujourd'hui l'exploit de voler sur Mars. Ce vol ne doit durer que 40 petites secondes, mais n'en sera pas moins historique, le premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète. La suite de nos informations, Niger, revenons sur la mort samedi d'une vingtaine de personnes dans une attaque menée par des hommes armés. Le massacre a eu lieu dans le village de Guégorou, région de Tillabéri située dans la zone des trois frontières Mali-Burkina-Niger, où les groupes djihadistes sèment depuis des années la terreur. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
C'est en pleine funéraille que les premières victimes ont été surprises par les assaillants venus à bord de motos selon des sources. Ils exécutent sur place 9 personnes avant de rentrer dans le village pour y massacrer 10 autres et repartir. Au lendemain de l'attaque, une délégation gouvernementale se rend dans le village de Guégorou pour apporter soutien moral et réconfort aux survivants. Al-Kassoum Indatou, ministre de la Défense nationale.
C'est difficile de voir un seul lycéen pendant le carême, alors qu'il est en train de gêner. C'est pour vous rassurer. Les forces de défense et de sécurité font continuer à faire et continuent à faire leur travail. Et quand on fait un travail, parfois il faut s'adapter aussi à ce que l'adversaire, à ce que l'ennemi est en train de faire. Il y a des mesures que nous avons eu à prendre dans la zone de l'Azourou. Ces mêmes mesures, Inch'Allah, on va les prendre concernant Guégorou et toute cette zone-là.
Le village de Guégorou est situé dans la commune de Dessa, pas loin de celle de l'Anzourou, où en mars dernier, 13 civils avaient été tués par des hommes armés dans 3 villages. Depuis le début de l'année, cette zone de la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali, enregistre des massacres, particulièrement de civils, perpétrés par des hommes armés venus pour la majorité du nord Mali. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
L'ex-président tchadien Hissène Habré reste en prison. La justice sénégalaise a refusé une demande de libération pour raison de santé introduite par ses avocats. Le point avec Abdourahmane Dia.
Un refus a été opposé à cette demande déposée le 29 mars, selon ses avocats Ibrahima Diawara et François Serre, dans un communiqué rendu public hier dimanche. Le raisonnement tenu pour refuser la permission est que la question de la santé est du ressort de la direction de l'administration pénitentiaire, alors que c'est bien en tenant compte des risques pour la santé que la première permission a été accordée par le même juge, ont expliqué les deux avocats qui ont dénoncé une règle de droit à géométrie variable. Nous vivons des moments difficiles où un système étouffe en homme ses droits les plus élémentaires, à savoir le droit à la santé, ont poursuivi les avocats. L'ancien dirigeant tchadien avait bénéficié le 7 avril 2020, au début de la pandémie de Covid-19, d'une sortie de prison de 60 jours accordée par la justice sénégalaise. Hissène Habré, 79 ans, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar, après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage, enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime de Hissène Habré.
L'armée éthiopienne annonce le déploiement de troupes dans une région du nord pour endiguer des violences entre les deux ethnies les plus nombreuses du pays qui ont fait des centaines de morts ces dernières semaines. Le point avec Michel Joseph.
Selon l'armée éthiopienne, un poste de commandement a été installé pour assurer la primauté de la loi sur les forces destructives qui perturbent la paix. Amhara, une des 10 régions administratives, est peuplée essentiellement d'Amhara, la deuxième communauté la plus importante du pays. Mais la zone spéciale Oromo est, elle, peuplée d'Oromo, le groupe ethnique le plus nombreux d'Éthiopie. Le médiateur en chef de l'Éthiopie, Andale Haile, a indiqué début avril que plus de 300 personnes avaient péri et plus de 300 avaient été blessées lors de plusieurs jours de violence en mars en Amhara. Jemel Hassan Mohamed, un responsable administratif en zone Oromo, avait indiqué que les violences avaient commencé quand un imam Oromo avait été abattu devant une mosquée, déclenchant des affrontements entre habitants et forces de sécurité Amhara. À quelques semaines des élections législatives et régionale prévue le 5 juin, ce déploiement de troupes met à nouveau en évidence les violences communautaires en Éthiopie au-delà du récent conflit armé dans la région du Tigré.
La Minute Éco, Blanche Sanou.
Les 3 millions d'agriculteurs africains qui produisent la moitié des noix de cajou dans le monde ne touchent qu'une petite partie de la valeur ajoutée. La production mondiale est passée de 1,5 à 3,9 millions de tonnes de 2000 à 2018 selon la CNUSED. Moins de 15% des noix produites dans les 20 pays africains sont décortiquées sur le continent et 85% sont décortiquées en Inde et au Vietnam. Au Sénégal, la Société nationale d'électricité vient de lancer 3 projets d'une valeur globale de 9,7 milliards de francs CFA pour accroître l'accès à l'électricité. Il s'agira de raccorder 37 500 ménages à faible revenu et sécuriser 20 000 installations commerciales dans 9 marchés. Le pays prévoit l'accès universel à l'énergie en 2025 avec l'installation de 50 000 compteurs intelligents à plus de 2 000 villages. Au Kenya, la filière avocat a connu sur ces 5 dernières années une progression fulgurante aussi bien sur le plan de la production que de l'exportation. La filière avocat est l'une des branches les plus dynamiques du secteur horticole et le pays a exporté 68 000 tonnes en 2019. Le Nigeria est la prochaine destination de Burger King sur le continent africain. La chaîne canadienne de restauration rapide prévoit de démarrer ses opérations en août prochain pour tirer profit des perspectives qu'offre le marché nigérien.
Merci Blanche. Et maintenant les sports, nous commençons avec Bagassi Koura par ce séisme dans le football européen.
Oui, bonjour Idrissa.
12 grands clubs ont officialisé ce matin le lancement de leur Super League, une compétition privée vouée à supplanter la Ligue des Champions. Pour l'UEFA, c'est tout simplement une déclaration de guerre et l'instance du foot européen promet d'exclure les équipes dissidentes et leurs joueurs Bagassi.
Oui, après des années à agiter le spectre d'un schisme, les cadors du continent européen ont fini par franchir le pas avec à leur tête le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou Manchester United, tous multiples vainqueurs de la Ligue des Champions. On parle de 12 clubs européens les plus importants qui ont donc annoncé la création d'une nouvelle compétition dénommée The Super League, gouvernée par ses clubs fondateurs. On cite notamment le AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, le FC Barcelone, l'Inter Milan, Juventus de Turin, Liverpool, Manchester City et Manchester United, le Real Madrid et Tottenham. Ce sont donc ces clubs qui se sont réunis en tant que clubs fondateurs, peut-on lire dans un communiqué diffusé sur les sites internet de plusieurs clubs concernés. La saison inaugurale démarrera aussitôt que possible, poursuit le communiqué.
Bagassi, multiplication ce matin des réactions.
Oui, la FIFA ne peut que désapprouver une ligue européenne fermée et dissidente, a réagi l'instance mondiale du football dans un communiqué. L'association européenne des clubs, dont font partie tous les cadres du football européen, a déclaré hier soir être fortement opposée à un modèle de super ligue fermée, peu de temps avant l'officialisation de ce projet privé concurrent de la Ligue des Champions de l'UEFA. Nous resterons unis dans le but de mettre un terme à ce projet cynique, un projet fondé sur l'intérêt personnel de quelques-uns au moment où la société est plus que jamais en quête de solidarité, a indiqué l'UEFA dans un communiqué ce dimanche. L'instance du football européen promet d'exclure les équipes dissidentes et leurs joueurs.
Merci Bagassi Koura. Retrouvons à présent notre ami Élisée Oumpatine pour le reste de l'actualité sportive. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Volleyball pour commencer, le championnat d'Afrique des clubs masculins a démarré hier à Sousse en Tunisie.
Oui, et dans le groupe A, première réussite pour le club du pays hôte, l'Espérance de Tunis, vainqueur 3-7 à 0 des Ougandais de Rukenzo. Succès également dans ce groupe des Kenyans de Port Authority 3-7 à 2 face aux Rwandais de l'APR. Belle entame également des Camerounais de PAD 3-7 à 1 devant les Ivoiriens de la SOA dans la poule B et des Égyptiens de Zamalek 3-7 à 0 face aux Kenyans de GSU. En revanche, premier raté pour les Congolais d'Espoir de Kinshasa, battu 3-7 à 1 par les Nigériens de Customs. Ils vont essayer de se reprendre aujourd'hui lors de la deuxième journée face aux Kenyans de l'unité des services généraux.
Élisée, Rabat n'abritera pas d'étape de la Ligue de Diamants 2021.
Exactement, Idrissa. La compétition qui rassemble chaque année les stars de l'athlétisme ne fera pas étape au Maroc cette année en raison des restrictions en cours liées au coronavirus, indique un communiqué. La ville marocaine de Rabat devrait accueillir la première étape de la course, mais celle-ci se déroulera finalement à Getchid, en Grande-Bretagne, le 23 mai prochain.
Football à présent, la fédération rwandaise n'a plus de président.
Tout à fait. Un an avant la fin de son mandat, Jean Damascene Sekamana a annoncé sa démission. Le général de l'armée, qui a cité des raisons personnelles et familiales, était à la tête de la fédération depuis le 31 mars 2018. C'est le vice-président Marcel Matikou qui devra assumer les fonctions de président jusqu'à l'année prochaine.
Sur le terrain et au Sénégal, Tenguet prend la première place de Ligue 1 chez l'AS Douane.
Oui, après l'avoir battu 2-1 en match de retard comptant pour la 8e journée, le club de Rufisque totalise donc 24 points, 2 de plus que l'AS Douane et avec 2 matchs en retard en Côte d'Ivoire. Fin de la phase aller dans la poule B et c'est la SEC Mimosa qui a fini en tête avec 14 points après avoir battu l'AS Standard 1-0. On jouait par contre la 5e journée dans le groupe A et la phase réalise le sans faute après avoir battu 3-1 le Sporting Club de Gagnoua. Le club de Djekanou totalise 15 points en 5 sorties. 5e journée également au Togo. Et la SEK domine la zone nord avec aussi 5 victoires en autant de matchs. Les chauffeurs de la COSAF ont corrigé hier la SBINA 7-0 et comptent 4 points d'avance sur leur rival l'ASCO de Kara, victorieux 2-1 de ses massifs de Sokodé. Et puis, Gomido de Palimé conforte sa première place au sud après son succès 2-1 face à l'AS Togoport.
Merci, Élisée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, une brigade spéciale est désormais chargée de prévenir les violences faites aux personnes vulnérables, dont les enfants. Une bonne nouvelle pour les petites filles qui vivent dans des familles d'accueil, mais sont obligées de faire des travaux de ménage. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
La brigade a été créée l'année dernière, mais c'est le 5 mars dernier qu'elle a officiellement commencé ses activités. Le commandant de la brigade et ses hommes n'ont pas attendu longtemps avant de recevoir la première alerte. Pour l'adjudant-chef Bernard Tonguino, il s'agit bien des cas de traite des enfants.
Et on a envoyé nos éléments sur le terrain qui ont constaté les faits. Alors quand ils sont arrivés, leur tante qui est partie de prendre le village, qui a fait croire aux parents que c'était pour venir donner une vie décente aux enfants, c'est un cauchemar qu'elle a fait vivre aux enfants. C'était de les placer dans les familles et moins quelque chose qu'elle, elle bénéficiait.
Âgée de 13 et 15 ans, chacune était payée à 250 000 francs guinéens, soit 20 dollars. L'argent que percevait l'intermédiaire, finalement poursuivi pour fait de traite des mineurs. Ce cas est à citer parmi plusieurs d'autres. Cette autre fille de 13 ans a connu bien pire.
Avant, j'étais chez ma grande sœur à Conakry. Elle appelait ma maman pour lui dire qu'une de ses connaissances a besoin d'une fille pour l'aider à faire ses travaux ménagers. On a compris qu'elle me paye à la fin du mois. Donc, je suis allée chez elle à l'abbé. Elle me payait 50 000. Elle me frappait, m'insultait et quelquefois même me privait de nourriture. J'aurais souhaité vivre avec mes parents avec des moyens pour aller à l'école. Je suis revenue à Conakry dans une autre famille d'accueil, où je vis bien avec toutes les bonnes conditions.
Une petite fille venue du village, on en trouve dans de nombreux foyers à Conakry. Mais toutes n'ont pas la chance d'avoir une vie normale. Asma Ouba, présidente du réseau africain des travailleurs domestiques.
Nous recevons des cas de temps en temps, et des enfants qui sont exploités, qui subissent des traites dans les ménages. On les envoie de l'intérieur du pays et ils travaillent comme domestiques. Ils ne connaissent même pas combien on leur paye, c'est traité directement entre les parents et l'employeur. Ce que nous trouvons anormal, et c'est des enfants qui n'ont pas à tel âge pour travailler.
La majorité de ces filles ne va pas à l'école, occupées à faire des corvées de ménage. Certaines sont même victimes de sévices.
Et le cas d'une bonne qui a été accusée par sa patronne de vol. Et cette dernière s'est permise d'appeler un de ses voisins et ce dernier est venu la séquestrer, attacher, bastonner et brancher un fer à repasser, l'a électrocuté sur son pied droit 6 fois. Et ça, c'est très criminel.
Selon le commandant de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables, en 1955, procédures ont été traitées, dont 64 cas de viol et agressions sexuelles sur mineurs. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Comment mettre l'accent sur le rôle que peuvent jouer les femmes pour un retour à la paix au Mali? Ce fut l'objet d'une conférence organisée cette semaine à Bamako par le Timbuktu Institute qui œuvre pour une résolution pacifique des crises sécuritaires en faisant recours aux solutions endogènes. De Bamako, notre correspondant Mohamed Danyoko.
Dans le but de promouvoir les solutions endogènes à la résolution des crises sécuritaires sur le continent, et plus particulièrement au Sahel, Timbuktu Institute a réuni plusieurs femmes leaders à Bamako autour de la question de la paix. Dr Bakary Samb, responsable Timbuktu Institute.
Je pense qu'il est fondamental au regard de son importance sur l'impulsion d'une dynamique nouvelle parce que véritablement les hommes ont beaucoup œuvré. Il faut maintenant que les femmes aussi apportent leur contribution. La deuxième chose, ce n'est pas non plus une nouveauté que les femmes s'engagent au Mali. On l'a vu au plus grave de la crise, ces femmes de Gundam, ces femmes de Tombouctou pendant ces évasions dans les années 2011-2012. Et aujourd'hui, je crois que naturellement, les femmes doivent affirmer ce leadership-là sur une question aussi cruciale que la paix et la sécurité dans un pays qui est le Mali, qui a besoin aujourd'hui de l'apport de tout le monde dans le cadre d'un dialogue inclusif.
Depuis le début de la crise, les initiatives, surtout de la société civile malienne, se sont multipliées pour une grande implication des femmes dans le processus devant mener au retour de la paix. Les femmes, qui sont majoritaires au sein de la population, sont les premières victimes des crises sécuritaires. Au Mali, ces dernières années, les femmes ont pu se battre pour obtenir la loi 052 qui consacre 30% des postes de responsabilité nominatif et électif aux femmes, même si jusque-là, l'application n'est pas effective. Adam Diko, directrice exécutive à JICAD.
Alors, la place que les femmes doivent jouer aujourd'hui, c'est une place d'actrice dans tout ce qui est la recherche de solutions par rapport à la crise qui traverse le pays. Le rôle des femmes doit être un rôle primordial. Ce rôle doit être un rôle d'actrice, mais aussi un rôle de celles-là qui viennent pour conscientiser les autres par rapport à la dangerosité de l'extrémisme violent. Parce qu'on l'a vu, vous l'avez écouté pendant la conférence, que les femmes non seulement sont souvent des facteurs positif par rapport à la résolution des conflits, mais elles peuvent être aussi des catalyseurs par rapport à ces conflits. Donc aujourd'hui, il est important d'impliquer les femmes dans tout le processus, depuis la recherche de solutions jusqu'à la mise en œuvre de ces solutions et même l'évaluation de ces mécanismes pour voir si ça répond au contexte local, si c'est adapté aux mécanismes au niveau local.
Une vingtaine de femmes ont rejoint le comité de suivi de l'accord de paix issu du processus d'Alger qui regroupe le gouvernement malien, les groupes armés signataires et les partenaires du Mali. C'est, dit-on, le résultat d'un combat pacifique mais acharné des regroupements des femmes du Nord et du Sud. Nana Ousmane Touré, actrice de la société civile.
Nous voyons surtout des activités de renforcement des capacités organisées par les femmes, des activités d'information, de sensibilisation, des actions du média, également des activités de visite d'échange et même des études réalisées par des femmes pour apporter la connaissance sur le processus de paix, sur l'accord pour la paix et la réconciliation, ses mécanismes et aussi les femmes mènent depuis le tout début des activités de plaidoyer pour l'implication des femmes, pour la prise en compte des femmes dans les différents mécanismes de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et aujourd'hui, on dirait pas qu'on a gagné un combat, mais un avancée important a été réalisé pour la nomination des 9 femmes dans le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation.
Pour évoquer le frein à l'épanouissement du leadership féminin, certaines panélistes pointent du doigt la religion dont la mauvaise interprétation confine souvent les femmes à être des êtres de seconde zone. Comme solution, le docteur Bakary Samb invite à s'inspirer du modèle marocain.
On pourrait prendre l'exemple du Maroc, où à partir de 2004, avec la Moudawana, Moudawana Ahwal Shakhsiya, il y a eu un véritable débat où les éléments, la société civile, les leaders féminins se sont mis d'accord pour faire évoluer les textes, évoluer en tout cas l'interprétation, pour que véritablement l'islam ne soit pas tout le temps considéré comme un facteur bloquant des droits des femmes, mais que je crois que ça dépend de l'interprétation et de la lecture. Et aujourd'hui, avec le centre de formation des imams et des moshidats, ça montre que la femme a son rôle à jouer, notamment dans la société, mais aussi dans l'évolution de ces sociétés-là sur les questions de paix.
Après ce bureau de Dakar et de Niamey, Timbuktu Institute s'est installé à Bamako au mois de mars dernier. Et selon ses responsables, cette question de l'implication des femmes pour le retour de la paix restera une de ses priorités dans les mois à venir. Mohamed Danyoukou, Bamako pour VOA Afrique.
Parlez de VOA Afrique à vos amis. VOA Afrique au Mali, c'est 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 FM Tombouctou.
Le Nigeria a marqué la semaine dernière les 7 années de l'enlèvement de plus de 200 écolières de leur établissement scolaire à Chibok par les militants de Boko Haram. 7 ans après, les autorités n'ont toujours pas réussi à trouver une stratégie pour protéger les enfants et leurs droits à l'éducation. En ce moment, plus de 100 enfants sont toujours portés disparus et plus de 600 écoles restent fermées. Reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Nous sommes le 14 avril 2012 à Chibok, une ville du nord-est dans l'état de Borno. Plus de 200 écolières sont enlevées par des éléments de Boko Haram. Âgées entre 16 et 18 au moment du rapt, plusieurs tentatives pour leur libération ont été menées sans succès. La plupart de ces jeunes filles sont parvenues à s'échapper ou ont été relâchées, mais plus d'une centaine d'entre elles sont encore en captivité. 7 années après, les parents ont toujours l'espoir d'un retour à la maison de leurs enfants. Ayuba Bassa est coordinateur de la communauté chrétienne de Gossa dans l'état de Borno.
Hope needs to be kept alive at all time, but disappointment.
Nous devons toujours garder l'espoir. De notre déception est grande à cause des promesses faites tous les jours par les autorités et vous ne voyez aucune action concrète, ce qui peut décourager les gens. Garder l'espoir fait désormais partie de notre vie, donc nous allons continuer à garder espoir.
Le principal groupe d'activistes qui mène une campagne en faveur de la liberté des filles dénonce l'inaction du gouvernement qui érode la confiance des parents dans les autorités. Aïcha Yesufu, l'une des responsables du groupe, a un message pour les autorités.
Le message que nous essayons de faire passer est que c'est la vie des Nigérians qui est en jeu. Tout le monde doit être considéré de la même manière, sans distinction d'origine ou de statut économique. Pour nous, pas un seul Nigérian est supérieur à un autre Nigérian.
Personne n'a été arrêté ou poursuivi pour les enlèvements d'élèves commis à Chibok et ailleurs, contribuant à une escalade des attaques contre les écoles et la fermeture de plusieurs centaines d'entre elles dans les régions du nord-est et du nord-ouest. Manassé Alain est activiste et originaire du nord. Il a deux de ses cousines parmi les filles toujours entre les mains de Boko Haram.
Nous, je peux dire catégoriquement que c'est un manque de volonté et donner la chance à l'échec et à l'impunité. Il y a plus d'une centaine de personnes portées disparues et penser à s'expliquer pour faire des excuses n'a pas de place. La meilleure chose à faire est de penser quelle est la stratégie qui a été déjà utilisée qui a permis de ramener les filles.
La fondatrice de l'ONG Girl Child Africa, Buki Shonibare, a participé à plusieurs marches de protestation réclamant le retour des filles.
112 filles de Chibok sont toujours en captivité dans la brousse, ainsi que plusieurs autres Nigériens enlevés non identifiés. Donc ma réaction est que c'est triste et malheureux. Et cela n'est rien d'autre que le manque de responsabilité de la part du gouvernement.
L'impunité semble avoir favorisé une escalade des attaques visant des écoles selon l'Organisation internationale de défense des droits humains, Amnesty International. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.